VOA Afrique.
Bienvenue à vous dans Washington Forum. Cuba, un rapprochement historique. Qu'adviendra-t-il des initiatives diplomatiques de Barack Obama après son départ? L'ouverture vers Cuba est-elle appelée à durer? C'est au programme dans Washington Forum.
La visite historique de Barack Obama à la Havane, de l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à ce premier voyage d'un président américain depuis 90 ans. Retour sur un demi-siècle de relations conflictuelles entre les États-Unis et Cuba. Après l'embargo, quel avenir? Politique, économie, culture, immigration? On en parle tout de suite dans Washington Forum.
Washington Forum.
La semaine dernière, nous avions consacré un numéro de Washington Forum aux attentats terroristes dans le Sahel. Cette semaine, nous ne saurions commencer cette émission sans mentionner le double attentat de Bruxelles qui a fait au moins 31 morts et 270 blessés. Mardi 22 mars, à 8h en heure locale, deux explosions retentissent dans la zone des départs de l'aéroport international Zaventem de Bruxelles. À 9h11, une explosion retentit dans une rame de métro à la station Malbec, située à proximité des institutions européennes. Les auteurs, trois kamikazes d'une cellule terroriste franco-belge, ont été identifiés. L'État islamique a revendiqué ces attentats. Dès lors, les villes de New York et Washington ont renforcé leur sécurité dans les lieux publics et les transports. Depuis, Barack Obama a condamné ces attentats. Écoutez-le.
Les pensées et les prières du peuple américain sont avec le peuple de la Belgique. Nous sommes solidaires avec eux pour condamner ces attaques scandaleuses contre des innocents. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir notre ami et allié, la Belgique, entraînant devant la justice ceux qui sont responsables. Ceci est un autre appel que le monde doit s'unir. Nous devons être ensemble, sans distinction de nationalité ou de race ou de foi, dans la lutte contre le fléau du terrorisme. Nous pouvons et nous le ferons vaincre ceux qui menacent la sûreté et la sécurité de personnes partout dans le monde.
Et le président américain s'exprimait depuis Cuba durant sa visite. L'autre événement à retenir cette semaine, c'était une première pour un dirigeant américain en exercice à Cuba. Fouler le sol cubain pour sceller le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Une première donc depuis la révolution castriste de 1959. Retour en images sur ces trois jours de visite à La Havane avec Salwa Jafari.
Historique, c'est l'adjectif qui revient le plus pour décrire cette visite. Les yeux du monde entier sont rivés sur la Havane. Barack Obama a fait sensation. Raúl Castro n'était pas là pour l'accueillir sur le tarmac, mais cela n'enlève en rien de l'importance de ce geste. Balade en famille dans le quartier historique de la vieille ville, puis discours à l'ambassade des États-Unis en service depuis juillet dernier.
C'est une occasion historique de dialoguer directement avec le peuple cubain et de forger de nouveaux accords et des accords commerciaux pour établir de nouveaux liens entre nos deux peuples.
Le rapprochement entre La Havane et Washington semble en tout cas sur les bons rails. À en croire la photo de la semaine, une poignée de main entre les deux hommes et une conférence de presse conjointe. Le président cubain n'a pas manqué de préciser que beaucoup reste à faire pour arriver à une normalisation complète.
Beaucoup pourrait être fait si le blocus des États-Unis est levé. Nous reconnaissons la position du président Obama et son administration contre le blocus et ses appels répétés au Congrès. Les récentes mesures prises par son gouvernement sont positives, mais ne sont pas suffisantes.
Instauré après l'arrivée au pouvoir des révolutionnaires de Fidel Castro en 1959, l'embargo américain sur Cuba reste en vigueur. Il a fait perdre plus de 100 milliards de dollars au pays. Le président américain espère que ce dernier pourra être levé par le Congrès américain, une décision qui se heurte à la délicate question des droits de l'homme.
Je crois que les citoyens devraient être libres d'exprimer leurs opinions sans crainte, à organiser et à critiquer leur gouvernement et à manifester pacifiquement et que l'application de la loi ne devait pas inclure les détentions arbitraires de personnes qui exercent leurs droits.
Malgré l'obstacle des violations des droits de l'homme, Barack Obama reste décidé à laisser une trace dans l'histoire en contribuant au dégel entre les deux pays et en mettant à profit cette visite pour rendre irréversible le processus du rapprochement.
Et nos invités tout au long de cette émission en direct depuis Paris, Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS sur les questions ibériques, Salim Lamrani, écrivain et enseignant spécialiste des relations entre Cuba et les États-Unis par Skype depuis Saint-Denis de La Réunion, et Idrissa Sédoudia, vous êtes journaliste ici à la rédaction avec nous à Washington. Ma première question se dirige vers vous, Salim Lamrani. Remontons un petit peu l'histoire. Plus d'un demi-siècle de rupture diplomatique. Pouvez-vous nous rappeler les dates clés de ce blocage entre les deux pays ?
Alors, il convient de rappeler que le différend qui oppose les États-Unis et Cuba remonte au 19e siècle, puisque Cuba est le premier problème, la première préoccupation de la politique étrangère des États-Unis, et à un moment où les pères fondateurs des États-Unis ont toujours vu Cuba comme étant l'appendice ajouté à l'Union américaine. Thomas Jefferson en avait parlé en 1805. Nous connaissons tous la théorie du free mur de John Quincy Adams. Et ensuite, les États-Unis, bien entendu, pendant l'époque républicaine, hein, au XXe siècle, avaient soutenu le gouvernement, la dictature militaire de Fulgencio Batista. Et s'était opposé à l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro bien avant 1959. Je cite de mémoire la déclaration d'Allende-Dulles de décembre 1958, si ma mémoire est bonne, où il déclarait qu'il faut empêcher la victoire de Fidel Castro. Donc, quand Fidel Castro arrive au pouvoir en 1959, il se heurte immédiatement à l'hostilité des États-Unis, qui avaient dans un premier temps accueilli les dignitaires de l'ancien régime, et qui avait imposé immédiatement des sanctions économiques contre Cuba. Je tiens à rappeler le constat lucide du président Kennedy, qui avait dit, je le cite de mémoire, « Nous aurions dû réserver un accueil plus chaleureux à Fidel Castro, ça nous aurait évité pas mal de problèmes. »
Effectivement, avançons un petit peu, on se retrouve très vite à l'embargo, à ce moment-là, comment ça se passe ?
Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à Cuba dès 1960. Il est important de rappeler que la rhétorique diplomatique utilisée par Washington pour justifier cette hostilité vis-à-vis de Cuba a fluctué au fil des ans. En 1960, lorsqu'Eisenhower a imposé les premières mesures de rétorsion économique, il avait évoqué le processus d'expropriation et de nationalisation des entreprises américaines. Ensuite, Kennedy avait évoqué l'alliance avec l'Union soviétique. Pour justifier l'imposition de sanctions économiques.
Au moment de la guerre froide.
Oui. Donc ensuite, dans les années 70-80, c'était l'interventionnisme de Cuba en Afrique, en soutien au mouvement indépendantiste. Et puis, depuis 1991 et l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis justifient le maintien d'une politique hostile vis-à-vis de Cuba, des sanctions, hein, en raison de la situation des droits de l'homme et de la démocratie. Donc il est important de rappeler que cette rhétorique a fluctué au fil des ans.
Aujourd'hui,
le président Obama a fait un constat très lucide quant à la politique étrangère des États-Unis. Il s'est rendu compte qu'elle avait été inefficace, qu'elle est obsolète, hein, elle remonte à l'époque de la guerre froide.
Effectivement, si vous permettez, c'est la question en fait qu'on comptait poser à Jean-Jacques Kourlianski. Jean-Jacques Kourlianski, je me tourne vers vous. Est-ce que vous êtes toujours avec nous en direct depuis Paris ?
Oui.
Jean-Jacques Kourlianski, qu'est-ce qui a permis au président Obama ce réchauffement avec toute l'histoire qu'on vient de résumer ?
Bon, le premier point, c'est qu'il s'est rendu compte que la politique qui avait été suivie jusqu'ici, qui est celle d'un embargo, d'une pression en vue de faire basculer le régime cubain en l'empêchant d'avoir des relations économiques normales avec le monde, c'est une politique qui avait échoué. Premier point. Deuxième point, Cuba ne représentait plus un danger pour la sécurité des États-Unis. Les États-Unis, d'ailleurs, l'avaient reconnu depuis 1996. On n'est plus dans la période de la guerre froide. Les Soviétiques n'existent plus, ce sont des Russes qui n'en présentent plus le même risque, en dépit des tensions actuelles, que ce que pouvait représenter Moscou dans les années 70. Donc, ces deux points ont conduit le président Obama à considérer qu'il fallait changer de politique. Mais il y en avait également un troisième. La relation avec des États-Unis, avec le reste du continent américain, avec les pays d'Amérique latine, qui eux considéraient qu'une normalisation totale des relations des États-Unis avec Cuba est une nécessité pour qu'eux-mêmes aient des relations fluides, confiantes, normales avec les États-Unis. Donc quelque part, il s'est passé d'ailleurs un événement important qui a peut-être été moins traité par la presse, mais qui l'aurait peut-être aurait dû attirer son attention. En janvier 2014, les pays de la communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, l'ensemble des pays latino-américains qui se sont constitués en marge des États-Unis et du Canada en communauté autonome en raison de ce problème cubain, sont venus à La Havane, soutenir La Havane dans ce conflit avec les États-Unis. Il y avait un sommet des Amériques à Panama qui se préparait pour le mois d'avril 2015. Panama avait invité Cuba. Donc, si vous regardez le calendrier, vous verrez que c'est le 17 décembre 2014 qu'il y a eu cette double déclaration des deux présidents annonçant qu'ils allaient engager des négociations pour rétablir leurs relations diplomatiques.
Alors, effectivement,
le voyage du président des États-Unis ne peut se comprendre qu'avec la suite. Il est actuellement en Argentine et il y a un lien évident entre ces deux déplacements.
On aura compris que c'était pour l'Amérique latine une condition sine qua non, semble-t-il. Alors, on a vu des images de Lies Idrissa dans les rues de La Havane. Comment est-ce que l'opinion américaine a vécu cette visite historique ?
Je n'ai pas tellement vu de sondage effectué après cette visite, mais il faut tenir compte des déclarations particulièrement des candidats républicains, pour comprendre que peut-être dans une certaine partie des États-Unis, particulièrement en Floride, un État clé dans les élections présidentielles à cause de grand nombre de grands électeurs qui existent dans cet État, comme on l'a vu en 2000 entre Bush et Al Gore, c'était déterminant. Donc à cause de cette réalité qu'il y a en Floride, les candidats républicains ont dit clairement que, de toute façon, dès qu'ils arrivent au pouvoir, puisque, en tout cas, c'était par décret et par décision unilatérale que le président a pris cette décision, eux-mêmes, ils reviendront là-dessus et ils vont biffer d'un trait cette reconnaissance de Cuba.
Alors, effectivement, cette visite a été suivie partout dans le monde. Voici des commentaires piochés sur le Facebook de VOA Afrique. Leng Pingyang en France, Obama a conduit les USA à la faiblesse, ou encore Guilin Moumoueke au Congo, qu'est-ce qu'un démocrate est parti chercher chez un dictateur ? Je me tourne vers vous, Jean-Jacques Kurlianski, est-ce pour vous un aveu de faiblesse des États-Unis que ce rapprochement avec Cuba, comme le commente ce téléspectateur ?
Non, dans la mesure où la relation des États-Unis avec l'Amérique latine est en train de changer, les États-Unis vont avoir une nouvelle force de frappe diplomatique grâce à une diplomatie d'influence qui est beaucoup plus efficace que la diplomatie de contrainte qui était pratiquée jusqu'ici. C'est d'ailleurs avec ce type de diplomatie que le dossier iranien, toujours grâce à ce changement d'orientation qu'a voulu le président Obama, a pu trouver sa solution. Donc, au contraire, le calcul qui a été fait par le président Obama, qui est de renforcer l'influence des États-Unis en pratiquant, au fond, ce qui était les objectifs à l'époque de la guerre froide de la troisième corbeille des accords d'Helsinki, c'est-à-dire qu'on reconnaît que les autres gouvernements qui ne partagent pas nos valeurs, nos idées concernant la démocratie ont le droit de vivre leur propre vie, ça ne nous empêche pas nous-mêmes de rappeler quels sont nos critères, nos valeurs et d'apporter une aide évidemment politique, culturelle à ceux qui sont nos amis. Le président Obama a d'ailleurs été très clair concernant les valeurs qu'il défendait face
effectivement,
au cours d'une conférence de presse et également à l'occasion d'un tête-à-tête, une réunion avec les dissidents.
Effectivement. Alors les images du président américain à La Havane ont de quoi agacer les plus farouches détracteurs de la main tendue au régime communiste. Salim Lamrani, Cuba est-elle encore ce bastion communiste des années de la guerre froide ?
Alors je crois qu'il faut souligner que l'Amérique latine a changé depuis plus d'un demi-siècle. Cuba a évidemment une société différente, avec un système politique différent, avec un modèle de société qui est distinct de celui des États-Unis. Et il y a évidemment deux conceptions complètement différentes de la démocratie. D'ailleurs, les deux présidents l'ont souligné. Je crois que Washington a compris qu'il fallait baser les relations avec Cuba sur un principe de réciprocité, sur un principe d'entente cordiale, de dialogue, et que la politique d'hostilité avait échoué, comme le signalait mon interlocuteur.
Donc une évolution avant tout.
Pardon ?
Une évolution avant tout. Je vous laisse terminer rapidement avant que nous allions. Allez-y. Une évolution avant tout, vous disiez.
Une majorité au sein de l'opinion publique des États-Unis qui est favorable à une normalisation des relations entre les deux pays. Et cela dépasse le clivage démocrate-républicain. Il y a de nombreux États à majorité républicaine, notamment les États du Midwest, qui, pour des raisons économiques évidentes, souhaitent avoir des relations normales avec eux.
Alors justement, Cuba. Je vais rebondir sur ce que vous disiez sur les républicains. Le comité national du Parti républicain a parlé d'une erreur historique. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, candidat à la Maison-Blanche, a évoqué un triste jour de l'histoire américaine. Alors, nous sommes en pleine année électorale aux États-Unis. Idrissa, est-ce que cela ne va pas faire de tort aux démocrates, aux candidats démocrates ?
Pas tellement, parce que la position des démocrates est très claire sur ce problème. Et je crois que Hillary Clinton, si elle est élue, ne cherchera pas du tout à changer ce que Obama vient de faire. Bon, pour les républicains, c'est autre chose. Parce que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, il y a la réalité de la Floride. Vous comprenez, c'est avec ces exilés cubains, à un moment donné, la CIA les a utilisés pour essayer d'envahir Cuba et de faire tomber le régime de Castro. C'était la BD Cochet, une catastrophe, à cause de Cuba et de cette obsession, en quelque sorte, qu'il y a à ce sujet. On a frôlé une guerre nucléaire avec l'ex-Union soviétique quand Khrushchev a mis des missiles sur, en territoire cubain. Alors, on a frôlé ainsi la guerre nucléaire à cause de ce petit État et de ses différends. Mais la nouvelle génération est peut-être différente et n'est pas comme l'ancien leader de ce mouvement qu'on appelait Mascanosa et qui insistait sur une politique inflexible vis-à-vis des Castro jusqu'à ce qu'ils tombent. Je crois que ce n'est plus la réalité maintenant.
Alors, ce sont sur ces mots que l'on va marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite après.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
De retour dans ce Washington Forum consacré au rapprochement entre Cuba et les États-Unis, un acte qui ne suscite pas forcément, qui suscite bien des réactions, dans les deux pays. Arzuma Compaoré.
Pour de nombreux habitants de la Havane, la visite d'un président américain pour la première fois en 88 ans est un moment historique.
Je suis très contente, honnêtement. Pour moi, c'est un honneur d'avoir vu le président Obama de si près. Je dis ça avec la plus grande sincérité, je le ressens dans mon cœur.
Cela en vaut la peine parce que, comme tout le monde sait, il y a longtemps que nous n'avons reçu la visite d'un président des États-Unis. C'est le premier président à faire ce pas. Donc, peu importe la pluie, quoi qu'il en soit, nous devons le voir le plus près possible.
Mais une frange de la population reste réticente. Il n'y avait pas d'unanimité. Certains collègues disent ne pas supporter ce processus de normalisation des relations avec les États-Unis, mais la plupart n'a rien dit contre. Certains d'entre nous étaient clairement pour.
Aux États-Unis, la normalisation des relations avec Cuba après des décennies de guerre froide a ses supporters et ses réfractaires.
Je suis pour une normalisation des relations avec Cuba, parce que ce que nous avons fait cette dernière moitié de siècle n'a pas marché.
Sous l'administration Obama, l'Amérique a délaissé ceux qui ont souffert sous l'oppression de Castro. Cela est triste, et ce sera ça l'héritage du président Obama.
Quelques heures à peine avant l'arrivée d'Obama à La Havane, la police cubaine avait arrêté des douzaines de personnes qui protestaient contre le gouvernement communiste.
Messieurs, tous les changements introduits par Barack Obama depuis l'annonce surprise du rapprochement en décembre 2014 ont été décidés sans le moindre vote du Congrès américain. Stricto sensu, il pourrait être inversé d'un trait de plume le 20 janvier 2017 lorsque le successeur de Barack Obama s'installera derrière le bureau ovale. Jean-Jacques Kurlianski, comment voyez-vous l'évolution de ces avancées qui ont été faites jusqu'à présent ?
Alors, effectivement, tout dépend du nom et du parti politique du futur président des États-Unis. Si le président ou la présidente est un candidat ou une candidate démocrate, on peut penser que les choses vont suivre leur cours. Si effectivement le vainqueur est un républicain, et si c'est surtout M. Trump, on peut penser qu'il y aura un coup de frein, un coup d'arrêt à l'évolution en cours. Cela dit, le pari du président Obama, c'est de démontrer que les relations humaines, les flux, peuvent faire changer les choses à Cuba, mais aussi peuvent les faire changer aux États-Unis. Le constat que l'on peut faire, c'est qu'avec les mesures qu'il a prises depuis le janvier 2015, le nombre de visiteurs nord-américains à Cuba a augmenté l'année dernière de 77%. Les relations se sont accrues. Et il y a les compagnies aériennes qui maintenant peuvent avoir des possibilités d'avoir des vols directs vers des États-Unis, vers Cuba. Donc les relations qui sont en train de se tisser vont peut-être créer une situation irréversible. Il sera peut-être possible d'arrêter les choses là où elles sont, mais il sera sans doute très compliqué de revenir vraiment en arrière.
Effectivement. Salim Lamrani, s'agissant de l'embargo, on vient de le mentionner rapidement, il n'a pas encore été levé, du moins sur le plan économique, cela risque de prendre du temps. Quelles conséquences pour l'île, d'après vous, si jamais on ne va pas jusqu'au bout de ce qui a été impulsé par Barack Obama?
Alors, je crois qu'il convient de rappeler que les sanctions économiques constituent le principal obstacle au développement du pays. Elles sont unanimement condamnées par l'immense majorité de la communauté internationale lors du mois d'octobre 2015 pour la 24e année consécutive. 191 pays sur 193, y compris les plus fidèles alliés des États-Unis, ont exigé de Washington un changement de politique et une levée de ces sanctions. Pour plusieurs raisons. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ces sanctions sont anachroniques, elles remontent à la guerre froide. Elles sont cruelles puisqu'elles affectent les catégories les plus vulnérables de la société cubaine et non pas les dirigeants. Et enfin, elles sont inefficaces dans la mesure où l'objectif initial de renverser la révolution cubaine n'a pas été atteint. Et le constat actuel, c'est qu'au lieu d'isoler Cuba sur la scène internationale, ces sanctions, cette politique a isolé les États-Unis dans le monde entier. Le président Obama a pris des mesures constructives concernant la levée de certaines restrictions. Ah. Mais malheureusement, les sanctions sont toujours en vigueur. Il est vrai qu'il y a l'obstacle du Congrès, je crois que c'est un obstacle qui reste marginal. Le président des États-Unis, en tant que chef de l'exécutif, dispose de toutes les prérogatives pour démanteler 90% au minimum de ces sanctions.
Effectivement, Barack Obama s'est servi justement de ce pouvoir qu'il a au-delà du Congrès. Idrissa, il y a aussi la question de l'immigration, bien évidemment, qui revient pendant cette campagne électorale et qui, là, s'impose aussi dans le dossier de Cuba. Alors, aujourd'hui, à quel mouvement migratoire il faut s'attendre ?
Il ne faut pas s'attendre à un retour massif des exilés cubains ou des Cubains, n'est-ce pas, à La Havane ou ailleurs. Non, ça c'est exclu. Et ce qu'il y a, bon, peut-être qu'il y aura un mouvement de l'autre côté, parce que les Cubains ont toujours bénéficié d'un préjugé favorable ici aux États-Unis. On les considérait comme des réfugiés politiques, à la différence des autres qui étaient considérés comme des réfugiés économiques. Mais avec l'apport, parce que Obama s'y est rendu avec une importante délégation d'hommes d'affaires, peut-être que sur place, on pourra relancer l'économie, faire de bonnes choses.
L'embargo économique n'a toujours pas été levé.
Non, et le Congrès, tant qu'il sera dominé par les républicains, maintiendra cet embargo en place.
Alors justement, pour poursuivre dans ce sens, il y a encore des commentaires sur le Facebook de VOA Afrique, par exemple celui d'Alphonse Mbouaki en RDC. Fidel Castro, affaibli physiquement, se fait remplacer par son frère Raoul Castro, qui assure la continuité de la pensée unique de son frère, au point que la dissidence est toujours réprimée. Une autre réaction, celle de Khalil Ahmad en Angola. L'avenir de Cuba, c'est la relance économique et la marche vers la démocratie. Quant à Obama, il a marqué son histoire. Messieurs, est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que Barack Obama a posé là un acte historique, même si l'avenir de Cuba semble encore est plein plein d'interrogations? Monsieur Lamrani. Oui, monsieur, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Monsieur Lamrani.
Le président Obama a mis un terme à une anomalie historique. Il a rétabli le lien avec le peuple cubain. Il a construit un pont qui a été rompu en 1959. Et je crois qu'il marquera l'histoire comme étant le président qui aura adopté la position, l'approche la plus constructive pour résoudre un différend qui date de plus d'un demi-siècle. Je crois que c'est quelque chose, s'il est quelque chose que nous devons retenir du mandat du président Obama, ça sera le processus de normalisation avec Cuba.
Alors Jean-Jacques Kourlianski, est-ce que vous aussi vous êtes d'accord pour dire que c'est ce qu'il faudra retenir? Est-ce que c'est ça qui va vraiment impulser ce mouvement que l'Amérique latine attendait?
Oui, c'est un des exemples de la politique qu'a privilégié le président, la diplomatie qu'a privilégié le président Obama, qui est une diplomatie qui vise à défendre les intérêts de son pays, les États-Unis, via une forme de coexistence pacifique avec des pays comme Cuba, qui ne partagent pas les convictions et les valeurs des États-Unis, mais au final, cela va permettre aux États-Unis de débloquer, d'avoir une clé qui leur permet, notamment dans le cas de Cuba, de revenir, de reprendre pied sur avec leurs voisins du Sud, sur le sous-continent latino-américain, d'autant plus que dans la période actuelle, cette ouverture en direction de Cuba va être amplifiée par les changements électoraux que l'on a pu constater, en particulier en Argentine. Donc c'est pas un hasard si le président Obama a prolongé son voyage à Cuba en Argentine.
Effectivement. Merci. Idrissa, une dernière réaction, un dernier mot sur son voyage historique.
Il faut dire que, ça a été un déclic, en quelque sorte, mais tout dépend en Amérique, en politique étrangère, de la politique intérieure et des groupes de pression, comme on l'a vu dans le cas de l'Iran, comme on l'a vu dans le cas de Cuba. Il faudrait un consensus d'abord sur le plan intérieur pour qu'il y ait une suite favorable.
Mais est-ce que ces élections à venir, les élections présidentielles américaines, est-ce que tout le monde va être suspendu au résultat de novembre 2016 pour savoir si cette politique impulsée...
Il y a aussi le Congrès. Si le Congrès est toujours dominé par les Républicains après les élections de novembre, ça ne changera pas grand-chose à la politique que vient de lancer le président Obama.
Une dernière question très rapide, messieurs. Raoul Castro, est-ce que finalement on peut lui faire confiance pour que cette ouverture perdure? Monsieur Kourlianski?
L'ouverture est très importante pour la survie du régime cubain qui est en train de chercher une voie de type chinois. Comment se maintenir au pouvoir sans changement politique, mais en donnant à la population les moyens d'améliorer très nettement le niveau de vie qui n'est pas très bon. Raoul Castro va passer la main l'année prochaine et donc il faudra suivre avec beaucoup d'attention les travaux du prochain congrès du Parti communiste cubain qui va se tenir au mois d'avril, qui va définir, les grandes lignes de l'ouverture, je ne sais pas comment l'appeler, mais de type chinois qui va être suivi dans la politique économique de Cuba pour donner un plus grand espace au marché. Et d'autre part, qui va probablement annoncer celui qui va être appelé à succéder à Raoul Castro et mettre en application cette nouvelle politique économique.
Très bien, merci beaucoup. C'est déjà le mot, c'est déjà la fin de cette émission. Salim Lamrani, merci d'avoir été avec nous depuis l'île de la Réunion. Idrissa Sedoudia, merci à vous aussi. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité.